Il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel qu'on ne sait pas vraiment identifier. On ne peut pas expliquer la façon dont ils bougent, leur trajectoire. Ces phénomènes ne sont pas facilement explicables.
C'est un tournant dans l'histoire de l'observation des ovnis. Face au public dans une émission de télévision l'an dernier, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, reconnaît l'existence de dizaines d'enregistrements effectués par des pilotes américains entre 2004 et 2021. 144 cas au total, dont 143 qui restent inexpliqués. Après des décennies de culture du secret, la NASA lance une enquête. Le Pentagone annonce la création d'un bureau de résolution des anomalies, puis rédige un premier rapport sur les objets volants non identifiés à destination du Congrès. La publication d'un second document, retardé cet automne, est attendue par les journalistes, scientifiques et ufologues du monde entier.
Il y a énormément de témoignages de pilotes qui font état d'objets qui sont capables de rester la journée entière immobiles dans le ciel. Ce que je pense, c'est que c'est pas si saugrenu que ça de se dire que ça peut être des objets qui viennent de très loin.
Hypothèse extraterrestre pour certains, projet secret ou expérimentation militaire de pays étrangers pour d'autres, ces survols inconnus inquiètent un peu partout sur la planète parce qu'ils posent de vraies questions de sécurité de l'espace aérien. En France, c'est le GEPON, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui recense depuis 45 ans les signalements et cherche des réponses.
On a 700 signalements à peu près par an. Il y en a 500-550 qui sont des évidences. Et par contre, dans 150 ou 200 cas, on ouvre une enquête. On peut mettre jusqu'à 3-4 ans certaines fois, pour des cas les plus difficiles.
Parmi les centaines de témoins de PAN, de phénomènes aérospatiaux non identifiés, on trouve André Polkowski, 52 ans. Et c'est chez lui, en Bretagne, à Carnac, que commence cette émission. Enquête d'OVNI, plus de transparence, toujours autant de mystères. Un reportage de Mathieu Mondoloni, prise de son Lucien Lefebvre et Thomas Robin.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Voilà donc le lieu de l'observation.
Donc on est dans votre chambre, oui. Il y a un lit et il y a des Velux.
Il y a des Velux, effectivement, nous sommes sous le toit ici, donc on a une vue ici sur le ciel.
Vous étiez allongé comme ça ?
J'étais allongé comme ça, donc à peu près vers le milieu ici de la vitre, l'objet apparaît, enfin le milieu. J'ai pas regardé l'heure, mais je pense que ça devait être aux alentours d'une heure du matin à 1h30 maximum. Voilà. Donc j'étais allongé, je regardais le ciel, des conditions d'observation parfaites, pas de nuages, et soudainement j'aperçois un objet qui apparaît vraiment à l'est, donc qui sort de derrière ce petit muret. Mais là, ça, c'est pas un avion, c'est pas un bolide, pas un astéroïde, ce n'est pas, enfin une météorite, ce n'est pas un hélicoptère, rien de tout ça. Donc alerte, décharge d'adrénaline, de position couchée, je me lève instantanément, je me colle à la vitre, et là je peux observer effectivement une espèce de lueur. Alors je vais vous décrire l'objet. Il s'agissait d'une sorte de lentille. On va dire qu'elle est vue par la tranche, donc ce n'est pas un objet circulaire, mais plutôt un losange, un petit peu comme un boomerang, on va dire, de couleur orangée. Pas de bord net, mais c'est plutôt quelque chose, une lumière relativement diffuse, mais on voit bien quand même, ça change pas de forme, c'est toujours constant. La vitesse est fulgurante, c'est-à-dire que toute l'observation dure à peu près 5 à 7 secondes. À mon avis, l'objet doit faire la taille d'un gros Boeing 747 ou d'un Airbus A380. Donc ça veut dire quelque chose d'assez énorme. Donc je me suis levé, j'ai ouvert légèrement pour pouvoir le suivre quand il se déplaçait là-bas. Et ensuite, là, ben, j'ai une vue complètement dégagée sur justement au-dessus des toitures. J'ai pu suivre cette trajectoire jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'objet disparaisse, en fait, dû à son éloignement.
Qu'est-ce que vous êtes dit ? Vous êtes dit, c'est un ovni ? On se dit ça immédiatement ?
Alors, je savais immédiatement que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas du tout quelque chose de conventionnel. Vu la vitesse absolument incroyable à laquelle ça se déplace, c'est clair qu'on écarte absolument toutes les possibilités. Donc oui, assez rapidement, j'ai conscience que je suis en présence d'un OVNI, voilà, un objet volant non identifié, un phénomène aérospatial non identifié.
Et à ce moment-là, on se dit quoi, parce que vous êtes tout à fait normal, vous n'êtes pas un farfelu, vous n'êtes pas fou, donc comment on arrive tout d'un coup à se dire « Waouh, là je viens de voir quelque chose d'extraordinaire en fait ».
J'ai à mon actif quelques heures de vol puisque j'ai suivi un cursus du pilote privé. Cette passion que j'ai pour l'astrophysique, pour l'aéronautique, tout ça me conforte dans l'idée que j'ai face à moi quelque chose d'absolument extraordinaire qui n'arrive pas très souvent.
Vous en parlez avec votre épouse? Vous en avez parlé de cette observation?
Il m'a réveillé en sursaut, vous plaisantez ou quoi? Il a sauté du lit.
Je n'ai pas demandé votre prénom, excusez-moi.
Gaëlle.
Vous y croyez aux ovnis, aux pans, comme on dit?
Je pense, oui, qu'il y a des tas de phénomènes qu'on n'explique pas. Et puis, est-ce que ce sont des extraterrestres? Je les trouve bien patients. Ben, ça fait des années, des années, des années, des années qu'il y a des observations. Comment ça se fait qu'ils ne viennent pas discuter? Ou nous coloniser?
Je serais à leur place, je nous éviterais comme la peste. Hein. C'est pas reluisant l'image que l'on peut donner. Hein. Une espèce qui s'entretue, qui détruit sa planète. Moi, je pense que je surveillerais pour voir si on n'a pas trop tendance à se répandre plutôt qu'à essayer de venir nous dire on est venu en paix, coucou.
Ah, il est mobile, hein?
Ouais. Regarde, un coup il est clair, un coup il est foncé.
Ah oui, il va trop vite.
Mais je sais pas ce que c'est, ces deux trucs là.
Non, mais il va trop, trop vite.
Il déplace la nuage.
Non, mais qu'est-ce que c'est?
C'est un ovni. Moi je crois que c'est un ovni.
C'est les nuages qui font ça.
Non, c'est un ovni.
Oh, wow, what is that?
C'est incroyable. C'est incroyable. Bien, ok.
Si vous avez été témoin d'un ovni, d'un pan, d'un phénomène aérospatial non identifié, vous pouvez vous tourner en France vers un organisme public qui est rattaché au CNES. Ça s'appelle le GEPAN, le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. 20 enquêteurs bénévoles qui sont répartis sur tout le territoire français. Ces enquêteurs, ils vont justement aller interroger les témoins, le voisinage, utiliser des données scientifiques pour essayer d'expliquer ou non le phénomène qui a pu être observé. Ici, nous sommes à Pont-Aven, c'est à peu près à une heure de route de Carnac où on vient de rencontrer André, et on a rendez-vous avec l'un de ses enquêteurs, il s'appelle Antoine Cousin.
Merci. Bon, hop. Donc c'est une vieille maison traditionnelle de 1900, comme il y a beaucoup de maisons bretonnes ici.
Génial. Il y a une maison un peu étroite.
Voilà.
Je peux vous demander avant de monter juste ce qu'il y a écrit sur votre mur hein.
Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Aristote. Parce qu'en fait, je pense que dans toute recherche, il faut toujours faire preuve à la fois d'innovation, de prospective, d'originalité, et puis un petit peu de folie aussi, quelque part.
Et là, on va vous suivre dans votre bureau, c'est de là que vous travaillez, c'est ça, que vous faites la plupart des enquêtes que vous réalisez pour
oui,
le
GEPAN. Oui, tout à fait.
Bon, voilà, bienvenue. Donc, j'ai mes écrans avec tous mes outils ici, informatique.
Quatre écrans?
Oui.
On travaille sur un logiciel avec un ami et partenaire, François Louange. Et on a tout un tas d'outils intégrés dans ce logiciel qui permettent de faire de l'analyse de photos et de vidéos et de rapprocher éventuellement le phénomène photographié d'un phénomène connu. Donc c'est pour ça que vous avez la collection d'appareils photo qui est là aussi. Donc certains ont une petite histoire. Ça, c'est sur un dossier de 1975. Qui s'est déroulé dans la Meuse, c'est un Azeipentax, donc c'est un dossier qui est toujours en cours d'analyse concernant des photographies qui ont été prises par un gendarme à l'époque. Souvent, quand il y a besoin, si vous voulez, de pousser un petit peu l'expertise, on va jusqu'à acheter les appareils photos pour se remettre vraiment dans le bain, dans les circonstances de l'époque. J'ai pas mal avancé sur le dossier, mais il me reste à faire une reconstitution dans les conditions d'éclairage de l'époque. Voilà. Donc il faut que je récupère une pellicule similaire à celle qui avait été utilisée à l'époque et que je me place dans les conditions de luminosité de l'époque pour vraiment bien avoir un rendu le plus proche possible de...
Dernière étape de cette enquête,
voilà,
c'est ça?
Voilà, c'est la dernière étape de cette
et
enquête.
Et derrière, vous aurez ou pas une explication?
On aura ou pas une explication et à l'issue, ça pourrait être publié.
Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu comment vous travaillez et si vous en êtes d'accord, je vais vous montrer... Le témoignage d'André que nous avons rencontré tout à l'heure.
Oui, vous l'avez là, le mail?
Je l'ai ici, tout à fait.
Alors, j'ai fait cette nuit une observation très nette d'un phénomène aérospatial non identifié. Un objet de forme pouvant s'apparenter à une lentille vue par la tranche ou un boomerang arrondi à très faible courbure. Il était de couleur orangée avec des contours luminescents relativement diffus. Là déjà, vous voyez, nous en tant qu'enquêteurs, quand on lit ça, il y a quelques petits indices qui peuvent nous aiguiller. Couleur orangée, ça peut nous orienter déjà vers quelques phénomènes. Je dirais il y a trois choses qui m'aiguillent vers des lanternes thaïlandaises. La couleur orange, typique vraiment des lanternes thaïlandaises. Le fait que les bords soient flous, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages de lanternes thaïlandaises. Des déplacements rectilignes irréguliers.
Quoi ? Bah, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, les lanternes thaïlandaises, ce sont des petites montgolfières qui sont éclairées à un petit brûleur, comme une grosse flamme de bougie. Donc c'est perçu dans le ciel comme des lumières volantes.
Viens voir !
Alors quand on voit quelque chose d'inconnu dans le ciel,
regarde.
Il faut se dire que notre cerveau n'a pas en fait les moyens d'en estimer la distance.
Au cours des chaudes nuits estivales, de nombreuses personnes aperçoivent d'étranges formations éclairer le ciel. Qu'il s'agisse de nuées lumineuses ou de triangles qui laissent deviner les contours d'un vaisseau. Après quelques minutes d'observation, elles disparaissent à toute allure, laissant les témoins dans la perplexité la plus totale.
Donc l'hypothèse lanterne, c'est quelque chose que l'enquêteur, dans ces cas-là, peut garder à l'esprit, qui va creuser donc, selon deux axes, en demandant un complément d'information aux témoins et en faisant lui-même un complément de requête de situation auprès de Météo France pour les vents en altitude, par exemple.
Est-ce que c'est possible, par exemple, de regarder la météo de ce soir-là,
si vous faisiez
l'enquête ?
Je passe par le catalogue des produits, je demande les données climatologiques de base, les données horaires. Ici, je rentre la date de l'observation, donc je ne sais plus.
5 juin 2021.
5 juin 2021. Et l'heure ?
Entre 1h15 et 1h30, disait-il.
21, vous voyez, je rentre la date. Ici, ouais. Je mets l'heure. Donc pour les deux stations, vous avez un vent très faible à faible, pas de nuages détectés. C'est important d'avoir une situation météorologique. Pourquoi ? Parce que dans certaines typologies d'observation, il peut y avoir par exemple des projections de faisceaux, de projecteurs au sol sur la base de nuages. On appelle ça des sky rose ou des sky trackers, ça peut être très impressionnant. Vous savez, c'est ces projecteurs qu'utilisent souvent les discothèques ou quand il y a des animations commerciales. Connaître l'orientation et la force du vent, c'est très important pour rapprocher de ce qui peut être comme typologie de phénomène des objets portés par le vent, typiquement des lanternes thaïlandaises, des ballons lumineux LED, des ballons sondes, des cerfs-volants, enfin, etc., tout ce genre de phénomène. En plus, maintenant, depuis quelques temps, quelque chose qui est très bien et qui fonctionne très bien avec Météo France qu'on a mis en place, c'est l'utilisation des données MyFin, des données AROM, c'est-à-dire qu'on peut avoir auprès de Météo France un état des lieux très précis, à une échelle très très fine, du vent ou de la nébulosité à plein de niveaux d'altitude et à toutes les latitudes et longitudes que l'on souhaite.
Ça fait 10 ans que vous êtes enquêteur au GEPAN. Combien de cas vous avez traités depuis ces 10 années ?
À peu près 500. Ça semble beaucoup, mais il faut savoir que des fois, le traitement d'un cas prend pas plus qu'une heure, voire une demi-heure.
Comment on réagit quand il y a quelque chose d'inexpliqué ? On se dit qu'on n'a pas encore les outils et les données, ou on se dit « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, ça me donne envie d'aller chercher plus loin. »
C'est tout à fait plausible d'envisager que d'ici quelques années, quelques décennies, on dispose de nouveaux outils, qui ne sont pas connus de maintenant, mais de nouveaux phénomènes qui seraient tout à fait explicables par la physique, la météorologie, voilà.
Mais vous croyez aussi qu'il y a peut-être d'autres explications ?
Alors, c'est possible, oui. C'est possible. Au GEPAN, la porte n'est jamais fermée à toute explication, y compris l'hypothèse extraterrestre. Même si, jusqu'à maintenant, absolument rien ne montre que l'hypothèse extraterrestre est valide, dans le sens visite d'engins et de créatures extraterrestres sur Terre. Bien souvent, très souvent, même je dirais pratiquement tout le temps, un témoin nous contacte parce qu'il ne s'explique pas un phénomène qu'il a vu. Ça ne veut pas dire qu'il est inexpliqué. Ça veut dire qu'il observe dans des circonstances particulières qui, pour lui, ne sont pas explicables.
On distingue dans les passionnés d'ufologie ou de pan ceux qu'on appelle les croyants, c'est-à-dire ceux qui pensent que les extraterrestres nous visitent, et les autres qui, eux, n'y croient pas. Vous me disiez que vous avez un parcours, vous étiez au début un croyant et vous avez changé d'avis, pourquoi ?
Oui, c'est ça, oui, c'est un petit peu le parcours, je pense, de toutes les personnes qui s'intéressent aux pan ou aux ovnis. c'est d'être attiré par ce côté extraordinaire, merveilleux, hors du commun, comme tout un chacun on l'est. Hein. Et puis quand on creuse le problème, quand on s'intéresse au sujet, quand on essaie de mener des enquêtes, quand on a un petit peu de recul, on essaie d'avoir du sens critique, quand on est aidé là-dessus, on s'aperçoit que on arrive bien souvent à trouver des explications tout à fait standards et normales aux phénomènes qu'observent les gens. Donc on est un petit peu déçu parce que notre croyance en merveilleux, elle s'effondre un petit peu quelque peu. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas parce que on a une approche plus scientifique qu'on refuse absolument l'hypothèse extraterrestre ou l'hypothèse qu'il y ait d'autres phénomènes inconnus qui se déroulent et dont pour l'instant on ne sait pas expliquer la nature ni la provenance.
Comme vient de nous l'expliquer Antoine Cousin, pour la majorité des cas, les enquêteurs du GEPAN trouvent une explication grâce à leur logiciel, aux témoignages recueillis ou à leurs enquêtes de terrain. En revanche, il y a des phénomènes qui restent, eux, totalement inexpliqués. Ça représente 3,3% des cas soumis aux enquêteurs, soit environ une centaine de cas qui restent à ce stade mystérieux. Ils sont alors classés dans la fameuse catégorie D par le GEPAN, cet organisme public créé en 1977, est aujourd'hui dirigé par Vincent Coste, avec qui nous avons rendez-vous ici, au CNES, le très sérieux Centre National d'Études Spatiales, un lieu évidemment très sécurisé.
Bonjour. Monsieur, bien. Oui. Vous voulez le sac à dos aussi?
Oui.
Merci. Et là, après c'est fini. Vous en êtes plus. Ok, d'accord.
Donc bienvenue au GEPAN et bienvenue devant le tableau un peu emblématique quand même des observations un peu historique, un peu insolite, que Marie-Pierre, tu tiens depuis combien de temps?
Depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années. Hein. Voilà, j'ai commencé quand j'étais à Charest. Ah, non. Alors, vous avez devant les yeux des dessins, des photos, des schémas, des explications que les témoins nous envoient en accompagnement de leurs questionnaires.
Donc juste pour expliquer ce qu'on voit, en fait, ce sont des photos qui vous ont été envoyées par des témoins qui se demandaient ce qu'ils avaient pu voir, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc des pans. Et vous, avec ces photos, vous avez pu leur expliquer ce que c'était. Là, en l'occurrence, on voit des petits points lumineux dans le ciel au-dessus d'une église ou d'une cathédrale. Et ça, ce sont des lanternes thaïlandaises, en fait, c'est ça?
Voilà. Alors, la photo ne nous permet pas d'expliquer le phénomène. Ça vient en support avec le questionnaire et ça vient en support, après, pour toute l'enquête qui est menée. Voilà.
Donc, c'est vrai qu'on aime bien montrer ce panneau qui fait 3 mètres de long, hein, pour montrer la diversité des phénomènes. Hein. C'est surtout ça qui est marquant, là.
Oui, parce qu'on voit, on voit à la fois, il y a des choses qui peuvent ressembler à des soucoupes volantes. Là, on a un dessin qui vous a été envoyé où clairement c'est une soucoupe volante qui est dessinée. Là, on a l'impression que c'est un vaisseau spatial. Là, il y a un autre dessin avec une maison et l'avancée. Il est très détaillé, celui-là. Il écrit la lune, les nuages en altitude, le sens de la traversée du pan, le village.
Pour être pris au sérieux, les témoins ont non seulement besoin de témoigner sous forme de questionnaire et de raconter ce qu'ils ont vécu, mais ils peuvent être très très précis dans les dessins ou les photos qu'ils illustrent avec des flèches, des mots. Voilà, ils sont vraiment. Ça participe au fait qu'ils ont vraiment vécu de l'extraordinaire, qu'ils veulent témoigner de cet extraordinaire vécu.
Mais je sais pas. C'est quoi ce truc?
C'est un bordel.
Mais ça bouge?
Et c'est là, nous avons entendu que la chose se termine. C'est au moment où ça s'est terminé, nous avons levé la tête tous les deux. Et l'engin est parti, vous voyez? Voilà, ça s'est passé exactement comme ça.
Bon, alors une description de l'engin maintenant.
C'est comme s'il illuminait vers le bas.
Voilà.
Ou vers le haut.
Par contre, la coupole, avec la coupole, il devait être comme ça. Donc j'évalue la coupole à ceci, vous voyez?
Vu d'où vous étiez.
Vu d'où nous étions, hein. J'évalue la coupole à ça. Hein. Le rapport, je ne sais pas. Je crois que la gendarmerie s'en est occupée. Le gendarme qui était avec moi lui a fait un croquis de l'engin que nous avions vu. Et par la suite, moi, je ne m'en suis plus occupé, vous voyez.
Mais il faut surtout appeler, là. Il faut appeler je ne sais pas quoi, là.
Donc, bienvenue dans mon bureau de responsable du GEPAN au bâtiment Champollion. Donc, le GEPAN au bâtiment Champollion, ça a du sens.
C'est un joli symbole.
Un joli symbole.
Un mystère résolu, un autre à résoudre.
Oui, oui, on a nos pierres de rosette. Voilà, tout va bien. Bienvenue.
Merci. Merci beaucoup. Vous me disiez que vous aviez un petit son à nous faire écouter, quelque chose qui était assez,
assez original, ou révélateur. C'est-à-dire que les témoignages au GEPAN sont très variés. Et dans le spectaculaire, il y a une réaction humaine de la personne qui peut amener à introduire énormément d'émotions. Mais du coup, je vous montre ici...
Et donc, avant que vous lanciez, je précise que la voix est modifiée pour préserver l'anonymat, évidemment, de la personne qui a été témoin et qui est enregistrée.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Viens voir, viens voir ! Regarde ! Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! Mais oh ! Elle ne hurle pas comme ça !
Oh ! Oh non, non !
Mais c'est quoi ? Pourquoi tu...
Mais c'est extraordinaire !
Arrête de hurler comme ça, enfin !
Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est très parlant. Plus qu'un grand discours, je trouve ce témoignage-là... voilà, c'est un exemple. Il ne faut pas penser que tous les témoignages sont de cette nature-là. En tout cas, on peut être en situation de témoin tellement impressionné. Il s'agit de lanterne chinoise, en fait, hein, lanterne thaïlandaise. Donc c'est tout l'exercice qu'est le nôtre au GEPAN, que de recevoir, de collecter ce témoignage, et puis d'aller chercher là-dedans quelles sont les données, quelle est la véritable donnée parmi ce témoignage humain. Donc le GEPAN, c'est avant tout un service technique du CNES. C'est le groupe d'études et d'informations des PAN. Les PAN, ce sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Terme que vous préférez à OVNI, c'est bien ça ?
Voilà, OVNI n'est pas tabou, mais PAN est plus justifié. C'est-à-dire que OVNI, c'est objet volant. Donc c'est vrai que tous les témoignages, ça se passe dans le ciel. Hein. On est au CNES parce que de spatial, voilà, en tout cas c'est aéronautique ou spatial. PAN, c'est un phénomène, c'est-à-dire que ça peut être un phénomène lumineux, ça peut être un nuage ou un effet purement optique.
Combien de cas vous sont soumis chaque année au GEPAN ?
Alors on a 700 signalements à peu près par an. Dans les 700 signalements, il y en a 500-550 qui sont des évidences. Et par contre, dans 150 ou 200 cas, on ouvre une enquête.
Quand le Pentagone lui dit, de 2004 à 2021, je le répète, augmentation du nombre de phénomènes observés dans le ciel, et que du coup on les voit mettre plus de moyens, on voit la NASA monter une enquête composée de 16 scientifiques qui doit rendre un résultat dans les mois qui viennent, est-ce qu'on est vraiment face à une inquiétude ? Et quand je dis inquiétude, attention, je ne parle pas d'extraterrestres, je parle de sécurité de l'espace aérien, etc. etc.
La comparaison avec les États-Unis... il faut être prudent dans le sens où ils commentent des observations militaires réalisées par des caméras infrarouges. Voilà, moi, depuis un an que je suis là, j'ai pas eu de cas comparable à cela, donc je ne sais pas en parler. Évidemment, toute la communauté de l'ufologie, toute la communauté est en attente et en demande de savoir ce qui va se passer, ce qui se passe côté États-Unis, avec une vraie volonté de transparence.
La NASA donc annonce cette commission d'enquête. Est-ce qu'il y a une démarche envisagée ou envisageable en France de la même manière ?
Le GEPAN est la réponse à ça. Donc, ceux qui cherchent les ovnis, on les aide. Il y a des cas inexpliqués qu'on publie également. Et que ces personnes aillent approfondir, et je suis même intéressé par le résultat, d'aller pousser plus loin l'investigation de ces cas inexpliqués par le GEPAN.
Et si vous aviez un cas anormal, vous avez toute latitude pour le rendre public de la même manière ?
Je vous dis, nous, pour enregistrer un cas, c'est plusieurs jours, au mieux c'est plusieurs jours, et publication des résultats, on parle en plusieurs mois. Donc on n'est absolument pas dans de la sécurité-défense. Ça, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus.
Vous seriez au courant après l'armée si c'était le cas. Je refais allusion à une technologie étrangère qui, tout d'un coup, qui vous revient, l'armée le saura avant vous, c'est ça que vous voulez dire ?
D'accord. Bien sûr. Bien sûr.
Maman ! Viens voir !
Quoi l'histoire ?
Ben regarde là-haut !
Ah, bon.
Ben je sais pas. C'est quoi ce truc ?
Bordel. J'ai mis des trucs sur les gueules.
Avec des milliers d'avions dans le ciel, les militaires du monde entier sont en première ligne face à ces observations. En 2017, le très sérieux New York Times publie une grande enquête sur la façon dont l'armée américaine travaille sur des phénomènes inexpliqués. Le quotidien américain dévoile, à la surprise générale, trois vidéos tournées par des pilotes. C'est à Paris qu'on retrouve Mathieu Mondoloni, aux côtés d'Alexandre Renoux, commercial, devenu spécialiste des phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Interception sur France Inter.
Vous allez voir,
On a l'impression que celui-là, il s'appelle Go Fast. Donc c'est un objet qui va très vite au-dessus de la surface de l'océan. Enfin, ce qu'on pense en tout cas.
Ça, c'est une autre vidéo.
C'est la troisième vidéo.
En 2015 également.
C'est ça.
Sur le porte-avions Theodore Roosevelt.
C'est ça.
De l'armée américaine.
C'est ça. Sur la côte est. Donc. Did you talk to me with a target? No, I took an auto charge. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at the fly. Alors, on n'en a pas plus. Ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est un objet qui semble se déplacer au-dessus de la surface de l'océan, d'une trajectoire red killing très rapide, et qui est un objet qui est inhabituel pour les pilotes parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Ils se demandent What is this thing? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On n'en sait pas plus. La vidéo.
Parce qu'il est ravi d'avoir réussi à saisir.
Ouais,
en fait,
également, dans... il est ravi aussi parce que justement, il arrive à faire une acquisition avec sa caméra de l'objet. Et donc, le militaire, enfin le pilote, est très content parce que visiblement, c'est difficile à réaliser. Ça a été un détonateur.
2017, aux États-Unis, c'est considéré aujourd'hui par les ufologues du monde entier comme une date tournant, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait une culture du secret vis-à-vis des pans des ovnis aux États-Unis pendant très longtemps. Et à partir de cette date-là, il y a des choses qui changent. Et en deux mots, sans tout détailler, mais je crois que ça va même jusqu'à une parole de Barack Obama assez récente.
Oui, Barack Obama est intervenu lors d'une émission de télévision pour dire, effectivement, qu'on observait des objets non identifiés avec des capacités avioniques surprenantes. Voilà. La conséquence, en fait, de l'article du New York Times en 2017, c'est que d'un sujet médiatique, c'est devenu un sujet politique. En quelques mots, on peut peut-être écouter l'extrait, je pense que je l'avais...
Ouais.
What is true,
ce qui est vrai,
I'm actually being serious here, is that,
et je vais être sérieux un instant, c'est qu'il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel
qu'on
ne sait
exactly
pas vraiment identifier. On ne peut pas expliquer
how they move,
la façon dont ils bougent, leur trajectoire.
They did not have,
ces phénomènes ne sont pas facilement explicables.
An easily explainable pattern.
Et il y a encore
and
aujourd'hui
so,
you know, des gens qui continuent à prendre ça très au sérieux et à enquêter pour essayer de trouver ce que c'est.
Vous êtes un cartésien. À quelle conclusion vous arrivez? Il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez réfléchi à ça?
Dans ces cas-là, je pense qu'il faut raisonner. Il faut se dire, bon, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être effectivement des objets qui viennent de l'espace. Après tout, c'est pas si farfelu que ça. Nous, on en voit bien des sondes passer à côté de Pluton. Les premières planètes sont autour de 3-4 années-lumière. Si on imagine un objet, par exemple, qui va à 0,1% de la vitesse de la lumière, il faudrait 3000 ans pour venir sur Terre. On peut très bien avoir des objets, alors qu'ils sont juste comme des drones, hein, c'est-à-dire juste des robotiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un alien qui le pilote, mais qui arrive sur Terre et qui fait un relevé topologique de la Terre. Bien sûr, ça peut être une technologie humaine. Soit c'est donc un État qui serait concurrent des États-Unis, soit ce serait des programmes secrets américains. Mais là, on aurait quand même un gap technologique qui est quand même assez énorme. On n'a pas parlé, mais il y a énormément de témoignages de pilotes qui font état d'objets qui sont capables de rester la journée entière immobiles dans le ciel. Ce que je pense, c'est que c'est pas si saugrenu que ça de se dire que ça peut être des objets qui viennent de très loin. Une civilisation qui soit beaucoup plus ancienne que la nôtre.
C'est pas de la science-fiction.
C'est pas tant de la science-fiction que ça, finalement. Enfin, c'est potentiellement la nouvelle du siècle ou du millénaire, je veux dire, c'est aujourd'hui.
Voilà. De l'histoire, sans doute, de l'humanité, oui, bien sûr.
Pierre Lagrange, je suis sociologue. Donc j'ai un doctorat d'anthropologie sociale et d'ethnologie. J'ai travaillé beaucoup en sociologie des sciences.
Donc on est dans votre appartement, il y a énormément de livres. On voit des figurines de Star Wars, des sabres laser, mais il y a également des petits aliens, E.T. étant le plus connu, le E.T. de Spielberg. Ce qui est un peu la raison de notre venue aujourd'hui pour vous rencontrer, c'est que cette interception est consacrée aux ovnis, ou aux pans comme on dit désormais. D'où vient cette histoire de soucoupe volante en fait?
Ça débute en 1947. C'est un pilote privé américain qui est un jeune homme d'affaires, 32 ans, qui s'appelle Kenneth Arnold, qui se trouve dans le nord-ouest des États-Unis. Il habite dans l'Idaho et il a un petit avion personnel pour démarcher ses clients dans la région. Et le 24 juin, pas loin de Seattle, il observe 9 objets bizarres qui vont, d'après son estimation, à 2 fois la vitesse du son et qui ont une forme qui sont arrondies à l'avant, triangulaires à l'arrière. Et il y en a un, il n'est pas sûr de comment il l'a vu, mais il a l'impression qu'il a plutôt une forme de croissant. Et Kenneth Arnold, pour tout un tas de raisons, était, comme il était pilote, dans ce milieu de pilote, il discutait beaucoup du mur du son, enfin tous les prouesses aéronautiques. Et il était un peu resté dans cette idée que, comme en plus il y avait le début de la guerre froide et que ça se tendait avec les soviétiques, il a imaginé que c'était soit des armes secrètes américaines, soit peut-être soviétiques. Et par patriotisme, il a voulu en parler. Et donc il a essayé de trouver des interlocuteurs officiels, le FBI, tout ça, mais là où il était, il n'y avait pas de bureau qui était ouvert. Et en désespoir de cause, il est allé parler aux journalistes locaux. Et ces journalistes ont lancé l'histoire de façon assez mécanique. Ils ont rédigé une dépêche de presse, comme font beaucoup de journalistes dans ces cas-là. Mais cette dépêche a eu un écho retentissant et le débat sur les soucoupes volantes a véritablement démarré de cette histoire. D'autres personnes sont mises à déclarer avoir vu des choses également dans le ciel. Et donc, il y a eu la première vague d'apparitions et d'observations de soucoupes volantes tout l'été 47. Et le débat a tourné principalement autour de l'idée d'illusion, voire d'hallucination ou de mythe. Donc, le phénomène a été unanimement rejeté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les militaires ont commencé à enquêter avec l'idée que c'était complètement farfelu, qu'ils allaient voir des gens qui avaient vu les sérioles de Buck Rogers ou de Flash Gordon. Et en fait, ils ont été surpris de voir que les témoins étaient des gens plutôt équilibrés. Et les militaires ont été les premiers à conclure que, en fait, comme ils n'arrivaient pas à trouver d'origine, ils ont suggéré que ça pouvait venir d'une autre planète. Donc, les premiers à fantasmer, entre guillemets, sur les extraterrestres, c'est les militaires américains et pas vraiment le grand public.
75 ans plus tard, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Alors, c'est curieux, parce que les militaires américains ont été les premiers à enquêter sur ce sujet, et ils ont enquêté pendant 20 ans. Et depuis 2017, le ton des autorités a changé. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas d'indice précis pour comprendre cette espèce de revirement d'attitude. C'est assez significatif. Pendant très longtemps, le discours qui était maintenu sur la place publique, c'était passer, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Et maintenant, le ton est très différent. Il y a aussi des budgets qui ont été alloués pour faire des recherches et tout, et notamment une partie qui a été captée par un milliardaire américain qui s'appelle Robert Bigelow, qui est impliqué notamment dans la conquête spatiale et autres, et qui, lui, est un convaincu vraiment total sur ces sujets, proche d'un sénateur Harry Reid, qui lui-même était particulièrement convaincu. Donc, on voit bien que ce phénomène qui a longtemps été considéré comme une croyance populaire, on va dire, en fait a gagné une partie des élites aujourd'hui.
20 mars 2021, John Ratcliffe, ancien directeur du renseignement américain.
Honnêtement, il y a beaucoup plus d'observations qui ont été rendues publiques. Quelques-unes ont été déclassifiées. On parle d'observations et d'objets vus par des pilotes de la marine ou pris en photo sur des images satellites qui ont des comportements qu'il est difficile d'expliquer et qui sont difficiles à reproduire. Nous n'avons pas la technologie pour aller à des vitesses qui dépassent le mur du son sans créer de détonation. Il y a des choses qu'on observe qui sont difficiles à expliquer. Et il y en a quand même un bon nombre. Alors je crois qu'il faut qu'on rassemble ces informations pour les montrer aux Américains, en disant qu'on cherche toujours des explications plausibles.
Donc on voit qu'il y a un courant de gens qui ont accès au réseau officiel et qui poussent dans une direction. Donc on peut dire qu'après toutes ces décennies de débats, ils ont réussi à faire leur nid, quoi, et à convaincre une partie des personnes qu'il y a quelque chose. C'est un sujet sur lequel il faut accumuler des traces, des indices, et c'est un sujet plus difficile que les autres, parce que contrairement à la plupart des choses qu'on a étudiées en science jusqu'ici, derrière l'idée des ovnis, au moins dans le débat américain, il y a l'idée d'objets dotés d'intention. On a toujours étudié, la science occidentale a toujours étudié des choses qu'elle dominait, qu'elle domestiquait. Si on est visité par des extraterrestres, par une forme d'intelligence extérieure, on va dire, qui est capable de se manifester un peu à sa volonté dans notre environnement, il n'est pas évident que nos outils soient très adaptés pour les saisir. Ça pose quand même la question de comment est-ce qu'on appréhende quelque chose qui nous dépasse, quoi, qui nous transcende.
Au-delà des hypothèses, des croyances, des fantasmes aussi, le véritable enjeu, c'est la surveillance du ciel. Chaque jour, 12 000 aéronefs se déplacent dans l'espace aérien français. Au moment les plus chargés de la journée, 1400 appareils peuvent survoler simultanément le territoire. Ils sont suivis par 70 radars répartis un peu partout en France, avec 3 centres de détection et de contrôle et des informations centralisées dans la base 942 de Lyon-Montverdun. C'est sous terre que nous suivons Mathieu Mondoloni jusqu'au cœur du Centre national des opérations aériennes où les militaires, en permanence, scrutent le ciel et déclenchent les opérations d'interception en cas d'intrusion d'un appareil inconnu.
Interception sur France Inter.
Je recommence.
Excusez-moi, sinon si vous avez du mal à passer avec votre matériel, je peux vous faire passer sur le côté du coup.
Non, ça va aller, merci.
D'accord.
Par contre, ça veut pas me.
Vous êtes décompté.
Comment ? J'ai pas compris.
Vous êtes décompté du coup ?
Bah oui, je suis passée une fois, donc c'est bon. Et pour monsieur.
Je vais juste lui prendre son badge et vous vous.
Comme ça sera clair pour
vous. Oui, vous vous identifiez aussi. Ça marche.
Désolé, hein.
Je prends. Et je vous le ramène tout de suite. Oui, ça marche.
Merci. À vous aussi. Voilà, l'aide à l'administratif pour toute sa splendeur.
Merci.
Donc, pour vous présenter rapidement les choses, la base aérienne sur laquelle vous vous trouvez, elle a une particularité. C'est que c'est une des bases aériennes de l'armée de l'air aujourd'hui les plus stratégiques. Et d'accord. Pourtant, elle a zéro avion.
Il n'y a pas d'avion.
Pas d'avion. Et donc, en fait, il avait été décidé d'investir le site du Mont-Verdun et de creuser donc, ces galeries pour faire un centre qui soit capable de vivre en autarcie en cas d'attaque majeure pendant un certain temps.
Donc là, si on peut décrire, on est en train de traverser, d'emprunter un très long couloir en descente. On est en train de s'enfoncer sous le sol, c'est bien ça.
Oui. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'on est à 135 mètres de terre au-dessus de nous.
Quoi. D'accord.
Bonjour, monsieur.
Mathieu Mondoloni.
Enchanté. Donc, lieutenant-colonel Jérôme, adjoint au directeur des opérations du CNOA. Vous avez ici le capitaine Sylvain qui fait l'intermédiaire entre le CNOA et le GIPON.
Il a raison de notre visite, j'ai plein de questions à vous poser, vous allez voir. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce lieu très particulier. Je demandais tout à l'heure combien de kilomètres de galeries il y avait ici, j'imagine que c'est un terminal, il y en a quelques-uns.
Il y a plusieurs kilomètres et quelques hectares de surface, effectivement.
On vous suit ?
Donc là, il y a un peu plus de marche, parce qu'on est un peu plus loin au fond de l'ouvrage. Hop.
C'est là, si vous vous souvenez en courant, on est perdu. Là, on est mal.
Imaginez dans le noir et la fumée.
Ah oui, j'imagine. Ouais. Parce que là, pour expliquer un petit peu, on emprunte donc des couloirs souterrains depuis tout à l'heure. On tourne à droite, on tourne à gauche. On se rend compte que c'est une petite fourmilière quand même, cet ouvrage, comme vous l'appelez.
Oui, c'est ça, on l'appelle l'ouvrage, parce que bunker, c'est un peu austère. L'ouvrage, c'est un peu plus joli. Donc, ça a été creusé dans les années... 60 et voilà, jusqu'en 73.
Donc à l'époque en pleine guerre froide aussi, ce qui explique aussi cette
exactement.
Nécessité d'avoir un endroit sécurisé sous terre et à l'abri d'éventuelles bombes atomiques. Je comprends mieux pourquoi nous avons croisé tout à l'heure des vélos posés contre le mur, parce que on va effectivement plus vite en utilisant ces vélos dans ces interminables couloirs.
Pas pire que la maison France Inter.
Non.
Que la maison Radio France
Inter. Nous, on a des trottinettes dans les couloirs, parfois.
Des trottinettes.
Certains ont des trottinettes.
Bonjour. Hop là, pardon. Hop, merci.
Hop. Vas-y.
Hop là.
Bonjour.
Commandant Renault.
Bonjour.
Ils vont juste écouter une mission.
Là, j'ai les fréquences, on les entend ici. Effectivement.
Single group, drag,
Donc là, on est dans une grande salle avec des écrans qui sont juste devant nous. Il y a la carte de France, on voit des petits symboles. J'imagine que ce sont les avions et c'est l'espace aérien français que l'on distingue. Je me trompe pas, c'est bien ça ?
Alors, pas du tout. Vous êtes ici donc en plein cœur de la salle conduite du Centre national des opérations aériennes. Et c'est donc depuis ici que l'on supervise l'ensemble de l'espace aérien français. Et donc là, actuellement, vous avez 1000 avions qui sont au-dessus de notre territoire, là, à l'instant. Donc, en fin de journée, globalement, vous aurez 10 000 avions qui auront survolé la France aujourd'hui.
Donc là, si par exemple un aéronef qui n'est pas repéré ou qui n'est pas censé être là pénètre sur l'espace aérien, sur cette carte,
oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, à ce moment-là, le chef conduite décidera de faire décoller un des moyens en alerte. Imaginons, si ça vient de la Méditerranée, là, en ce moment, vous avez deux rafales qui sont en orange. On a le temps de faire décoller notre chasseur qui va intercepter l'aéronef et qui, du coup, avant qu'il pénètre sur l'espace aérien, eh ben, on aura ces éléments. On est également en lien avec différents services de renseignement, que ce soit le CLAT ou le renseignement intérieur. Vous avez ici le CNES et le GEPAN. On est aussi un capteur, parce qu'on a également des avions militaires qui volent et qui peuvent être également témoins. Donc c'est arrivé il y a 3-4 semaines maintenant, le marin, où effectivement, un soir, un pilote de la Marine nationale constate une très forte lumière au-dessus de lui. Donc le contrôleur aérien militaire lui confirme que non, sur son scope, il n'y a pas d'avion au-dessus de lui, il n'y a rien au-dessus. On a des fiches réflexes où effectivement on note l'heure, la position. Et après on transmet tous ces éléments au GEPAN. Et du coup le GEPAN a très vite répondu, puisqu'en fait c'est un phénomène très très connu maintenant. Ce sont les rentrées atmosphériques des deuxième étage des fusées des Starlinks. Et en préparatif de cette descente, ils sont obligés de dégazer un certain nombre de gaz, d'allumer le réacteur. Et en fait ça crée un halo lumineux. Voilà. Donc on est aussi, si vous voulez, capteur au profit du GEPAN qui lui va instruire véritablement.
Et qui derrière revient vers vous en vous disant voilà nous l'explication qu'on a sur ce phénomène.
À l'issue, le GEPAN effectivement rappelle le commandant de bord et explique ce qu'il a vu.
Est-ce que vous avez une idée statistique du nombre de pilotes, vous faisiez allusion tout à l'heure à l'un d'entre eux, qui a été témoin de PAN ?
2-3 par an, de la part de pilotes militaires.
Et qui restent inexpliqués ou qui au contraire ont une explication ?
Non, là, à chaque fois on a eu l'explication.
Systématiquement, on sait ce qu'ils ont vu au final.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a une procédure prévue si un pilote est témoin d'un PAN au sein de l'armée de l'air ? La procédure, c'est laquelle ?
Oui, tout à fait. Le pilote va rendre compte au contrôleur aérien qu'il a en compte de l'événement qu'il va constater. Et à partir de ce moment-là, on a des fiches pré-remplies avec toutes les rubriques qu'il faut renseigner et qui après sont transmises au GEPAN justement pour que eux facilitent le traitement, reprendre éventuellement contact avec le pilote pour reprendre le témoignage de manière plus posée et puis de lui poser des questions complémentaires. Donc nous, effectivement, si on avait un phénomène qu'on constate, qu'on n'arrive pas à l'expliquer, on ferait peut-être une analyse interne, mais franchement, par rapport à l'expertise du GEPAN, qui a un réseau d'experts très important, qui touche tous les domaines, on leur donnerait, parce que ça se trouve, au bout d'un an, deux ans, quatre ans, ils arriveraient à expliquer. Alors que si nous, on le garde, il y a des chances qu'on n'arrive jamais à l'expliquer, parce qu'on n'a pas cette expertise, et puis toutes les archives qu'ils ont, et tout ce réseau d'experts qui touche de tout, qui touche de la météo à l'optique, à l'électricité, maîtrise de la foudre, ils ont des experts vraiment dans tous les domaines.
J'imagine qu'il y a aussi du secret défense là-dedans, donc il y a des choses que vous devez garder.
Alors, on n'a pas constaté d'événements qui nous feraient penser à des technologies ou des actions étrangères.
Mais si c'était le cas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est suffisamment intrigant et fort, j'imagine que vous n'avez pas le donné au GEPAN qui, lui, pour le coup, est fait pour être transparent, c'est-à-dire qu'il publie, il donne.
Ouais, alors. Si effectivement il y avait des phénomènes particuliers, là on ferait des investigations de notre niveau. Mais là je vois pas quel genre de phénomène en fait on pourrait classer dans ce genre de catégorie. Nous on n'a aucune image de filmé par des sources militaires, que ce soit par avion ou par bateau, d'un phénomène pas expliqué. Les Américains annoncent des choses, donc on est vraiment en marche par rapport à eux. Après, ce qu'annonce le Pentagone, c'est un peu ambivalent dans le sens où ils parlent de plan, mais également de technologie d'une nation tiers. Donc on voit bien quand même que là, du coup, ça rejoint la partie militaire, parce que c'est technologie étrangère qui ferait peser une menace sur le pays. Donc là, il faut que je mette en face quelque chose pour contrer. Peut-être que sur les 140 cas américains, s'ils avaient eu un GEPAN, ils en auraient peut-être expliqué 90, je dis des bêtises. Mais... Et puis, du coup, la pression n'est pas la même.
Juste dernière question, et pardonnez-moi de la poser, mais je la pose à tout le monde pour ce magazine. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ?
Il y a du vivant dans l'univers, parce que ce serait quand même extraordinaire qu'on soit la seule forme vivante dans l'univers. On a trouvé des traces de bactéries sur Mars, partout. Statistiquement, c'est quasi obligé. Maintenant, s'il y a des gens qui arrivent à se déplacer dans l'espace dans des temps raisonnables, je pense qu'on ne les intéresse pas du tout, tellement nous serions anachroniques vis-à-vis d'eux. Donc, bon.
Enquête d'OVNI, plus de transparence, toujours autant de mystères. Un reportage de Mathieu Mondoloni, prise de son Lucien Lefebvre et Thomas Robin. Réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier. Mixage Marie Lepeintre. Cette émission est déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter.